Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur L'Art Appliqué, le podcast Growth Marketing pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing digital et growth pour parler de leurs expériences et voir avec eux la façon dont ils appliquent le framework ART. Une marque comme Cézanne drive deux fois plus de trafic sur son site via Pinterest que via Instagram. Ok, là, j'ai votre attention. Pinterest, on connaît pas tant que ça, c'est pas un sujet qui est très abordé. Pourtant, au cours de l'année 2019, la plateforme est passée de 251 millions à 322 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Il y a donc de réelles opportunités avec Pinterest, en particulier parce que c'est un peu négligé.
Le Smart Feed, c'est un ensemble de résultats liés à tes centres d'intérêt, liés à tes épargnes, pas à tes abonnements. C'est une fusion finalement entre le réseau social et un moteur de recherche. Ouais.
Cécilia Diaz est consultante Pinterest Marketing au sein de Digitoucan, la structure qu'elle a créée. Depuis le lancement de son blog de voyage il y a quelques années et l'optimisation de son compte Pinterest associé, elle s'est rapidement passionnée pour l'outil jusqu'à progressivement devenir une des premières spécialistes Pinterest francophones. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment Pinterest fonctionne, comment organiser sa stratégie de contenu pour attirer des visiteurs, comment les activer, comment rester en contact avec eux, en bref, comment faire du growth marketing avec Pinterest. Le guide du Pinterest Game, on en parle tout de suite, c'est parti. Je reçois aujourd'hui dans le podcast Cécilia Diaz. Bonjour Cécilia.
Bonjour à toi Yann.
Cécilia, tu es consultante marketing au sein de la structure que tu as créée qui s'appelle Digitoucan, mais pas n'importe quelle consultante, puisque tu as la particularité d'être dédiée corps et âme au Pinterest Game. Alors, si on veut le faire façon intitulée LinkedIn, ça donnerait « Tu aides des marques et des professionnels à se rendre visibles pour leur audience et à générer du trafic grâce à Pinterest ».
Exactement, c'est parfait.
Alors, Pinterest, on ne connaît pas tant que ça, en fait. C'est pas un sujet qui est très abordé, et à tort, parce que rien qu'au cours de l'année 2019, Pinterest est passé de 251 millions à 322 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et même avec ce genre de chiffres, on continue à négliger Pinterest dans nos stratégies social media, et moi le premier d'ailleurs. Il y a un nombre considérable de marques, et notamment de e-commerce, qui ont des résultats incroyables avec Pinterest. Si on prend un exemple, une marque comme Cézanne drive deux fois plus de trafic sur son site via Pinterest que via Instagram. Il y a donc de réelles opportunités avec Pinterest, donc on va voir ensemble comment ça fonctionne, comment tirer profit de ce réseau pour faire grossir son business. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment tu es arrivé à te spécialiser sur Pinterest ?
Eh bien, tout d'abord, merci à toi, Yann, de me laisser l'opportunité d'échanger sur Pinterest, parce que, comme tu l'as souligné, c'est quand même un thème qui n'est pas souvent évoqué sur la toile, on va dire, et peut-être encore moins en podcast. J'ai un profil qui n'était pas forcément voué à l'entrepreneuriat, on va dire, si on regarde en tout cas du côté de mon CV, parce que j'ai enchaîné des études de tourisme. Ensuite, via mon côté geek, j'ai été amenée vers les nouvelles technologies, mais toujours appliquées dans le secteur du tourisme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à percevoir finalement le métier de community manager pour les entreprises, bien évidemment. Donc au final, je me suis éloignée de cet univers pour faire un master en tourisme, encore une fois. Et en fait, j'ai effleuré le secteur du voyage pour finalement voyager en Île-de-France uniquement, et en fait j'avais envie de bouger, je tenais plus en place. De là, je suis partie 2 ans en Amérique du Sud, et là j'ai commencé aussi à entreprendre une nouvelle chose, c'est de créer un blog de voyage, et c'est là que j'ai commencé à expérimenter Pinterest.
Pour ton propre blog?
Exactement, pour mon propre blog de voyage. Donc l'idée, bien sûr, c'était de tester Pinterest, comment ça marche, comprendre pourquoi les gens les utilisaient, donc c'était un peu mon labo d'expérimentation, si tu veux.
Et pourquoi t'as choisi Pinterest pour tes expérimentations et pas un autre truc ?
Et c'est vrai, je me suis tellement penchée sur la question sur Pinterest parce que ça m'intriguait bien plus. Va savoir pourquoi. Facebook et Instagram, j'ai assez mis rapidement de côté, finalement. Pourquoi ? Parce que je voyais que ça commençait à avoir un engouement, surtout auprès des blogueurs. Je pense que Pinterest, ça a été quand même une plateforme... prise d'assaut assez rapidement par les blogueurs, aussi bien de cuisine, voyage, etc. Et donc, bien évidemment, je me suis intéressée par ça. Et j'ai vu aussi que sans faire grand-chose, j'avais déjà du trafic qui venait de Pinterest. Donc, j'ai voulu fouiller un peu plus par là. Et donc, de là, j'ai continué à me former. Et puis, finalement, je prenais de plus en plus plaisir à lire du contenu sur le marketing, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux en général. Je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas devenir consultante sur Pinterest ? Et en fait, je me suis rendu compte sur la toile que c'est un métier. Il y a vraiment des personnes qui sont consultants, qui sont spécialistes sur Pinterest. Je pense notamment aux US.
Ouais, mais en France, par contre... Il y a quasiment pas, quoi, hein, effectivement.
Oui, il y a très peu de personnes. On doit être une poignée de personnes à le faire, ouais, sur la thématique de Pinterest. Donc voilà, ça a commencé comme ça, digitaux, quoi.
Ok, ça marche. Donc tu l'as utilisé d'abord pour toi, et puis à force d'expérimenter, tu as fini à avoir plein de connaissances que tu as mis en pratique pour d'autres, quoi. Ça marche.
Exactement.
Alors, un point sur le fonctionnement général de la plateforme. Déjà, c'est pour quel type de business? Parce que c'est un peu les freins que les gens ont. Ils pensent que voilà, c'est pas pour eux. Donc, qui peut vraiment utiliser Pinterest? Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas? Comment ça fonctionne?
Ouais, tu as raison. Je dirais déjà, il y a trois critères au préalable. Le premier, bah, c'est évidemment d'avoir un site internet, ce qui n'est pas forcément le cas pour un compte Instagram, par exemple.
Ouais.
C'est vraiment indispensable puisque l'objectif principal de Pinterest, c'est de diriger son audience vers son site. Donc il faut bien évidemment aussi avoir un site responsive parce que bah, Pinterest est consulté via une application.
Okay.
Donc 80% des sessions sont réalisées via un mobile. Ensuite, le second point, c'est évident comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi, c'est vraiment est-ce que son audience est dessus. Tout à l'heure, tu as parlé d'un 322 millions d'utilisateurs actifs dans le monde.
Ouais.
En France, on est à 13 millions, ce qui est énorme. Et la nationalité aussi, il faut regarder ça. Parce que par exemple, si aujourd'hui tu as un e-commerce et ta clientèle principale, ce sont des Japonais, j'irai peut-être pas tout de suite sur Pinterest. Parce que pour l'instant, Pinterest, c'est une plateforme qui en essor sur ce marché. Par contre, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en France, en Italie, il n'y a pas de souci.
D'accord, donc il faut avoir une connaissance de sur quel marché Pinterest est vraiment utilisé ou pas, quoi.
Exactement.
Okay.
Et je dirais que le troisième critère aussi à prendre en compte, c'est avoir une stratégie de contenu. Je dirais d'ailleurs que c'est Pinterest qui va servir ta stratégie de contenu, qui va être là pour la soutenir, parce que l'utilisateur sur Pinterest, il a besoin qu'on l'aide pour prendre une décision, qu'on lui donne des informations. C'est à ce moment-là qu'on va intervenir sur Pinterest.
Stratégie de contenu, du coup, c'est revenir à l'étape d'au-dessus, où on identifie les buyer persona, les thématiques qu'on veut aborder. Est-ce que toi, des fois, tu interviens pour tes clients à ce niveau-là ou quand tu arrives, la stratégie de contenu est déjà en place et tu l'exprimes à travers Pinterest?
J'ai les deux cas de figure. J'ai les deux cas de figure et d'ailleurs, je regarde, en fait, ça dépend en fait, vraiment du client. C'est-à-dire que s'il y a déjà du contenu, en effet, on peut déjà mettre en avant, mais je vais voir avec le client aussi s'il a déjà travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'il envisage de faire à l'avenir? Parce que sur Pinterest, il faut quand même avoir du contenu régulièrement, c'est quand même l'objectif. Vers quoi il tend? Et dans ce cas-là, oui, je pourrais lui conseiller ou d'ailleurs déconseiller Pinterest parce que, par exemple, je pense, une fleuriste m'a demandé « Ah oui, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pertinent pour moi d'être sur Pinterest ?» Bah oui et non, parce qu'en fait, c'est tellement ancré sur un territoire. Être fleuriste, hein, fleuriste commerçant, voilà,
ouais.
Avec pignon sur rue, etc. Bah moi, j'irais d'abord sur Instagram, clairement. J'irais pas tout de suite sur Pinterest. Par contre, là, je dirais qu'il y a des cartes à jouer pour des grands groupes de fleuristes, comme Interflora, par exemple, qui pourraient montrer ses bouquets pour les mariages, etc.
D'accord, donc tu dis qu'en gros, tous ceux qui ont besoin d'un ancrage local... peuvent jouer cette carte locale sur Instagram, mais ils ne peuvent pas le faire sur Pinterest, c'est ça?
À moindre mesure. Par exemple, si tu as une boutique de costards, de mariage, admettons, et que tu as des boutiques à Paris, à Bordeaux, à Lyon, enfin dans les grandes villes de France, là, tu peux être sur Pinterest. Donc, tout dépend, encore une fois, du domaine. Donc là, on arrive, il me semblait que tu me demandais les domaines les plus populaires,
ouais,
sur Pinterest.
Ouais.
Tu as, bien sûr, donc, la décoration de la maison, qui est un thème très populaire sur Pinterest. Ensuite, tu as le do-it-yourself et le bricolage. Là, tout de suite, je pense à Leroy Merlin, par exemple, qui a une stratégie sur Pinterest. Enfin, elle est géniale. Ils ont une variété d'épingles, ils ont des épingles vidéo, ils ont des tutos, des photos, des moodboards. Enfin, voilà, ils ont tout, ils ont la totale, on va dire. Ensuite, on a l'art, le design, la cuisine, la mode femme. Tout à l'heure, tu m'as évoqué Cézanne. Et ensuite, le voyage. Bon, il y a plein d'autres thèmes comme la beauté, l'éducation, enfin, il y a plein d'autres. Mais ça, on va dire que c'est les tops.
Ok. Et alors, est-ce que c'est vrai que idée préconçue, il n'y a que des filles sur Pinterest?
C'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a 70% des utilisateurs sur Pinterest sont des femmes, ça c'est vrai. Par contre, on arrive vers une démographie qui tend à s'équilibrer. Finalement, ça me rappelle au début d'Instagram, tout le monde disait « Oui, Instagram, c'est pour les filles ». Donc c'est plutôt un public qui commence à s'élargir, en tout cas au niveau des genres.
Et est-ce que tu as des exemples de comptes qu'il faut suivre qui marchent bien? Alors tu as évoqué Laura Merlin, est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, je peux te parler d'autres comptes. Moi, je, par exemple, pour la décoration, je pense à Frenchy Fancy, qui a un blog pro sur la déco. Ensuite, on a Aventure Déco. On a Clem Around the Corner, qui est une blogueuse. Tu vois, c'est eux qui se sont emparés de la plateforme en premier. Donc, c'est vrai que c'est eux qui connaissent bien, qui ont vraiment des bonnes pratiques sur Pinterest. Tout à l'heure, donc, je t'ai parlé de Laura Marlin, qui a vraiment une belle stratégie. Niveau cuisine, là, ce qui me vient en tête, c'est Tastemade. Je ne sais pas si ça te non. parle. Ils ont des épingles vidéo qui ont été filmées d'un format vertical.
Oui, prévu pour
les réseaux sociaux. J'imagine qu'ils les utilisent aussi pour Insta, mais sur Pinterest, ça marche vraiment très très bien. Elles sont très populaires, leurs épingles. Voyage, je peux te parler de Florida. C'est une destination, la destination touristique de la Floride, qui met en avant toutes les activités de la région, qui met en avant les prestataires qui sont sur place. Donc il y a vraiment des beaux comptes sur plusieurs thématiques. Donc,
Et alors du coup, comment on peut faire pour espionner au mieux les stratégies Pinterest des autres comptes? Alors si on trouve qu'ils font du bon boulot, qu'est-ce qu'on peut faire pour espionner pour...
Il faut dire que Pinterest, pour l'instant, ça n'a pas encore suscité toute l'attention des éditeurs de logiciels, d'applications... qu'on a sur d'autres réseaux, par exemple comme sur Instagram, sur Facebook, pour étudier les données des autres comptes concurrents.
Ah, ok. Donc il n'y a pas beaucoup d'outils.
C'est ça, il y a peu d'outils qui sont disponibles. Je peux te citer True Social Metrics, qui est un outil payant pour accéder aux metrics des pages Pinterest. Social Suite aussi. On a aussi Social Suite. Ouais, qui propose quelque chose de similaire. Mais vraiment, concrètement, moi, je suis encore beaucoup à la méthode un peu manuelle, si je peux dire ça comme ça. C'est d'analyser déjà les concurrents dans la vraie vie de ces personnes et voir qu'est-ce qu'ils font sur Pinterest, quelles bonnes pratiques ils mettent en place, quel est leur rythme d'épinglage, comment ils s'y prennent concrètement. Et je regarde 4-5 concurrents très proches sur la même niche.
Et alors, quand on débute sur Pinterest, le premier réflexe, c'est de se référer à ce chiffre magique des visiteurs mensuels. C'est la première chose qu'on voit. Et c'est comme ça qu'on jauge sa progression, enfin ce qu'on pense être sa progression. Et c'est comme ça qu'on jauge la puissance des autres comptes. Mm-mm. Alors, est-ce que c'est un mauvais réflexe?
Ouais, c'est plutôt un mauvais réflexe. C'est en fait un peu une vanity matrix, et ce pour plusieurs raisons. Le nombre de visiteurs mensuels qui est affiché sur le profil, ça comprend plusieurs choses. Déjà, ça prend en compte les personnes qui ont vu les épingles qui renvoient vers votre site, mais les épingles qui ont été revendiquées par d'autres comptes. Ça prend en compte aussi les personnes qui ont vu vos épingles sponsorisées, et ça prend aussi en compte les personnes qui ont vu les épingles que vous avez dans vos tableaux. Donc en gros, c'est l'équivalent, on va dire, du reach, en quelque sorte, mais pas que, parce que finalement, c'est aussi du contenu qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'épingle un pin sur Pinterest qui est très populaire à un de mes tableaux, forcément, je vais remonter ce chiffre. Alors que cette épingle ne m'appartient pas du tout. Excusez-moi.
Ok, d'accord, je comprends. C'est quoi les métriques qu'il faut traquer, du coup?
Déjà, bien évidemment, ça dépend de tes objectifs. Mais sur Pinterest, on peut regarder les analytics de Pinterest. On va pouvoir regarder le taux d'engagement de tes épingles. Ce taux d'engagement comprend les clics, les ouvertures des épingles et les repins.
Okay.
On va regarder aussi le contenu qui plaît le plus, sur quelle thématique. On va aussi regarder quels sont les meilleurs taux d'engagement par tableau. Déjà, on se fixe déjà sur ces données-là. Ensuite, on va regarder bien sûr sur Google Analytics, c'est-à-dire sur son site. On va regarder concrètement quelle épingle me permet de gagner du trafic.
Mais ça, tu le sais pas dans les stats Pinterest? Il te dit pas le taux de clic?
Si, tu as le taux de clic, mais sincèrement, je préfère me référer à mon Google Analytics.
Parce que ça ne correspond pas au chiffre d'Analytics, alors?
À quelque chose près, si. Il y a quelques clics près, mais je préfère rassembler tout.
Tu préfères le faire,
ok. Ouais. Je ne peux pas connaître, par exemple, le taux de clic d'une épingle sur mon Google Analytics. Donc ça, c'est ce que je vais regarder sur Pinterest. Mais par contre, sur Google Analytics, je vais regarder donc, les épingles qui me donnent plus de trafic, les contenus qui performent le plus et le taux de rebond aussi derrière. Est-ce que ces personnes vont voir d'autres pages de mon site, etc. Je me suis fait un tableau de bord Analytics Pinterest qui me donne toutes ces données. Et donc, du coup, je connais exactement quelles épingles me renvoient le plus de trafic et quel contenu plaît le plus sur Pinterest.
Quelles sont les fonctionnalités à paramétrer pour avoir un bon setup pour travailler avec Pinterest?
Donc, il faut passer son compte perso à un compte pro, si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, on va devoir vérifier son site internet par Pinterest.
Ouais, en mettant un code sur ton site, ok.
Exactement. Ensuite, on va éditer son profil. On va avoir le nom, le profil, le zoname. On va revendiquer ses autres comptes. Par exemple, on peut revendiquer son contenu YouTube, Etsy, sa boutique Etsy ou encore son compte Instagram. Et enfin, on va installer les rich pins. Donc, pour la précision, les rich pins, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, en fait, Pinterest utilise les métadonnées de votre site internet.
Ok.
C'est celles qui permettent au moteur de recherche de mieux comprendre votre site. Donc, si je prends l'exemple d'un blog de cuisine avec une recette, sur ce site, on va avoir des métadonnées pour dire à Google, voici une recette, voici la liste des ingrédients, voici le temps de préparation, etc. Et ça, ces informations, Pinterest, il va les utiliser pour créer des épingles enrichies. Donc, c'est la traduction des rich pins. Dès que tu vas mettre l'URL, Pinterest, il a bien compris que tu utilisais des métadonnées sur ton site, donc il va bien les synchroniser automatiquement. Et ça, c'est la même chose pour les rich pin products. Par exemple, si on change le prix d'un produit sur Pinterest, le prix va être actualisé sans rien faire.
Donc, ce qui permet d'afficher le prix sur une épingle d'un produit.
Exactement.
Ok, parfait. Alors, ce modèle AR commence par le A de acquisition. Alors, comme tu l'as évoqué tout à l'heure et comme tu le dis sur ton site Digitoucan, alors contrairement à l'idée répandue, Pinterest n'est pas un réseau social. C'est vraiment l'information numéro un, je dirais, pour ceux qui s'intéressent à Pinterest. Pinterest, c'est un moteur de recherche. Donc, les analogies avec le SEO sont évidentes. L'acquisition se fait en deux étapes. D'abord, impression, et puis après, bah, y a clic, quoi. Quels sont les critères de l'algorithme de Pinterest pour le reach, pour les impressions?
Du coup, je ne vais pas pouvoir définir tous les critères de l'algorithme dans ce podcast, mais bien évidemment, puis on ne sait pas tout, hein, bien sûr. Mais par contre, ce que je peux te dire maintenant, c'est que le fresh content est de rigueur sur Pinterest, c'est-à-dire qu'auparavant, voire 6 mois, 1 an plus tôt, c'est encore plus vrai il y a 2 ans plus tôt, il était bien plus facile d'épingler sur Pinterest du dupliqué de content, tout simplement, en fait, hein, de réépingler le même contenu avec la même image. Aujourd'hui, pour améliorer l'expérience des utilisateurs sur la plateforme, Pinterest, il veut pousser les créateurs de contenu, donc c'est-à-dire les créateurs de contenu concrètement sur Pinterest, c'est des marques. 70%, il me semble, des créateurs sont des marques. Il veut pousser vraiment la création de contenu. On va essayer de proposer d'autres images, d'autres choses pour ses utilisateurs et ne pas remettre en boucle les mêmes images, les mêmes visuels. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte sur Pinterest. L'un des critères de l'algorithme sur Pinterest, qui joue bien plus qu'auparavant, en tout cas, c'est la nouveauté, en fait. La nouveauté du visuel sur la plateforme.
Ok. Et quels sont les autres critères? Alors, je suppose que le taux de clic sur les épingles, ça fait partie.
On va voir aussi, ce que tu disais, le taux de clic, le taux d'engagement, finalement, par rapport à ces épingles. L'activité du compte aussi, si c'est pas un compte qui finalement épingle une fois par mois et point barre.
La fréquence.
La fréquence
des autres posts. Donc la fréquence des autres posts va jouer sur la portée de ton dernier pin, c'est ça?
Plus tu vas avoir un engagement global en fait sur tes épingles et plus ton compte va remonter, plus Pinterest il va observer que tu épingles régulièrement, que tu es actif sur sa plateforme. Il va mettre en avant les créateurs de contenu qui font l'effort d'être actifs.
Ok. Et l'ancienneté du compte, ça joue ou pas?
Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais c'est vrai que les personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont pu établir un nombre d'abonnés conséquents, oui, ça va être en leur faveur aujourd'hui sur Pinterest, même si ce n'est pas le plus important, parce qu'on l'a dit, Pinterest est plutôt un moteur de recherche et non pas un réseau social. Mais ça va être en leur faveur parce qu'on sait par exemple que l'algorithme va distribuer les épingles dans un premier temps de ses abonnés. Ensuite, si les abonnés ils n'ont pas d'interaction avec les épingles, bah, il va décider si ça vaut le coup ou pas de distribuer une épingle sur l'ensemble de la plateforme. Donc ceux qui ont une base solide d'abonnés, forcément ça va les aider, il va y avoir plus de personnes qui vont avoir des interactions avec leurs épingles. Mais c'est qu'une petite pièce de tout l'algorithme de Pinterest.
Donc c'est un mélange entre l'algorithme de Google pour le contenu textuel, on va dire, et les algorithmes des réseaux sociaux qui vont montrer à une petite partie, et s'il y a de l'engagement, ils vont le montrer à d'autres. Donc c'est un mélange des deux, quoi.
Oui, c'est ça.
Ok, d'accord.
C'est une fusion finalement entre le réseau social et un moteur de recherche. Ouais.
Ok, parce que voilà, on en reparlera, mais moi j'ai fait des essais, je me suis fait un compte et tout. Voilà, un compte neuf avec pas d'abonnés, tu fais ton épingle, voilà, tu n'arriveras pas dans le haut du résultat de recherche pour ta requête, c'est impossible.
Pas aujourd'hui, non. Il faut épingler régulièrement, il faut montrer sur Pinterest que tu es là, que tu épingles de nouvelles choses. Donc c'est plutôt un travail durable. C'est...
Ok, mais alors, du coup, la fraîcheur est importante, mais du coup, si je suis tellement frais que c'est mon premier pin, mon premier de mon compte que je viens de créer, il y a trop de fraîcheur,
trop
ça marche
frais,
pas
là.
Du tout. Ouais, d'accord, je comprends. Alors du coup, c'est quoi les règles de publication? Une fois par jour, une fois tous les deux jours, c'est quoi? Qu'est-ce que tu préconises?
Il n'y a pas de règles dites. Hein. Avant, on était surtout sur, oui, on va mettre 80-20% de son contenu. Il y avait beaucoup de choses. D'un côté, c'était des mythes et d'un autre, il y avait une part de vérité parce qu'à un moment, Pinterest avait quand même communiqué là-dessus. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je dirais qu'on est plutôt sur la qualité que la quantité. Avant, on était amené à épingler 50 pins par jour. Comme ce que je te disais, c'est que le duplicate content était plus facile. On épinglait les épingles des autres, etc. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, on va être plus sur la qualité. On va être sur... Il n'y a pas de chiffres. Moi, c'est vraiment selon les objectifs, les moyens de l'entreprise qui va définir un chiffre. Moi, par exemple, en ce moment, je suis sur une quinzaine d'épingles. Ça dépend des jours, ça dépend du moment, de la saison, ça dépend de plein de choses.
Ok, donc oui. Plusieurs fois par jour. Comme ça, ça reste entre 2 et 50, quoi. D'accord, je comprends. Parce que tu vois, il y en a qui peuvent se dire, ah bah, je vais faire un pin par semaine, mais non, là pour le coup,
ça ne le fait pas.
Quoi.
Du tout, ouais. Non.
Dans les pins qu'on fait, quelle proportion tu préconises entre pin de quelqu'un d'autre et son propre contenu du coup ?
Je dirais que la règle, c'est plutôt de garder son compte actif, en fait. Donc, si à un moment, j'ai vraiment pas de contenu parce que j'ai pas eu le temps de créer mes propres épingles, enfin, tu vois, je vais plutôt mettre en avant le contenu des partenaires auxquels je fais confiance. Donc, c'est-à-dire des personnes, je sais que son contenu est intéressant, que c'est pertinent par rapport à mon audience, etc. Et ensuite, revenir avec mes épingles si besoin. L'idée, bien sûr, c'est de travailler pour son compte Pinterest, c'est bien sûr de mettre en avant son contenu, mais j'ai envie de te dire aussi de ne pas rester inactif pendant des jours et des jours juste parce que tu n'as pas de contenu à proposer à ce moment-là.
Et dans le meilleur des cas, si tu as toutes les ressources du monde, il vaut mieux être à 100% sur son propre contenu.
Très bonne question. Je dirais plutôt... bien sûr, ça serait l'idéal. Après, 80-20, 70-30, ça reste... Parce que l'idée aussi, c'est de montrer à son audience qu'on est expert sur une thématique. Imaginons sur... le mode de vie éco-responsable. J'ai une boutique e-commerce qui vend des vêtements responsables. Je vais mettre en avant à mon audience que je suis responsable sur le lifestyle, sur dans la cuisine, enfin, à voir selon ton audience, bien évidemment. Mais du coup, tu vas peut-être justement proposer un contenu plus varié.
Ok, je vois. Il y a une autre particularité de Pinterest, c'est les tableaux. Voilà, j'ai pas encore vraiment saisi comment ça fonctionnait tout, principalement les tableaux partagés, on en reparlera. Là, pour moi, ça sert à thématiser son contenu, mais est-ce que du coup, ça a un intérêt, on va dire, SEO ? C'est-à-dire que si par exemple, on fait un compte qui a comme thème marketing digital, donc on va avoir SEO, social media, voilà, on peut avoir plein de thèmes classiques qui sont des sous-thèmes de marketing digital. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un tableau qui s'appellerait SEO par exemple, pour apparaître dans des résultats de recherche sur le SEO, ou alors est-ce qu'on pourrait juste mettre des épingles qui parlent de SEO et apparaître quand même dans les résultats de recherche? C'est quoi l'usage des tableaux et à quoi ça sert, à part pour aider l'utilisateur à naviguer dans ton compte s'il tombe sur ton compte, quoi?
Comme tu l'as dit au départ, je pense qu'il faut prendre les tableaux, en tout cas pour, en tant que marketeur, c'est en termes de référencement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une épingle qui traite sur le référencement naturel, tu vas l'épingler dans le tableau de bord SEO, voire astuce SEO ou conseil SEO pour boutique e-commerce.
Ouais.
Il y a un intérêt de référencement. Après, à savoir aussi que chaque épingle appartienne finalement à un tableau. Donc, c'est une façon de les classer. C'est un petit peu comme si tu avais ton bureau en face de toi. Tu as plusieurs dossiers, il faut classer ces documents. Donc, pour les classer et pour les retrouver plus facilement, tu vas nommer ces tableaux avec des mots-clés pertinents, avec des mots-clés que ton audience utilise pour trouver ton contenu.
Ok, mais alors du coup, comme il n'y a que deux niveaux finalement, il y a le niveau compte et le niveau tableau, on ne peut pas faire des sous-tableaux de tableaux. Du coup, est-ce qu'il faut avoir un tableau qui va s'appeler conseil SEO, un tableau qui va s'appeler référencement naturel, pour cibler le mot-clé qui nous intéresse.
Alors, à vrai dire, il y a des sous-tableaux.
Ah oui ?
Il y a des sous-tableaux, des tableaux. En fait, Pinterest, il se dit, mais il sait très bien que son audience est quelqu'un qui s'organise, qui aime planifier, qui aime se projeter, qui aime prendre des décisions, etc., mais qui aime regarder un peu tout autour de lui. Et donc, il s'est dit qu'il a besoin de tableaux pour sous-organiser, donc c'est sous-dossier, on va dire. Mais par contre, en termes de référencement, eh bien, finalement, ces sous-tableaux ne sont pas pris en compte. Donc, je ne conseille pas la création de sous-tableaux, en tout cas dans cette optique. Donc, par rapport à ta question sur est-ce que je dois créer, si je veux me placer si je veux bien me positionner sur référencement ou SEO, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir y épingler un minima de 50 épingles pour chaque tableau ? Est-ce que je vais pouvoir aussi l'alimenter régulièrement ? Est-ce que j'en suis capable ? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des tableaux qui concernent Facebook, Instagram, le SEO, parce que je sais que mon audience s'intéresse à ça. Par contre, je vais peut-être pas créer, je sais pas, optimisation du profil Instagram, optimisation du profil Facebook, parce que ça serait trop. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre un parti pris. Il faut se dire, bon, je vais plutôt me positionner sur ça. Après, tu peux aussi optimiser le titre de tes tableaux et pourquoi pas y écrire SEO, conseil pour le référencement naturel.
Alors, justement, c'est ça ma question. C'est-à-dire que c'est un très bon exemple, SEO et référencement naturel, parce que c'est deux requêtes pour dire la même chose.
Exactement.
Est-ce que toi, tu conseillerais du coup de faire un seul tableau qui dit SEO, conseil, référencement naturel, ou est-ce que je pourrais faire, alors je te dis n'importe quoi, mais tu vas me dire si c'est bon ou pas, je pourrais faire un tableau qui s'appelle SEO, un tableau qui s'appelle référencement naturel. Finalement, ce serait le même contenu, sauf que j'essaierais de trouver des visuels différents, mais par contre, ce serait les mêmes liens. Est-ce que ce serait du duplicate content, du coup, si je mets les mêmes liens, mais je mets des photos différentes ?
Non, à partir du moment où tu as une image qui est différente, ce n'est pas du duplicate content, peu importe le lien qu'il y a derrière. Par contre, Pinterest, il est quand même... L'algorithme Pinterest n'est pas fou. Hein. Il va bien se rendre compte du superflu. Donc, il faut qu'il y ait quand même une différenciation entre tes deux tableaux. On sait bien que ça parle de la même thématique. Mais derrière les épingles qui se cachent là, peut-être pas exactement les mêmes, peut-être pas exactement le même contenu. C'est-à-dire que, par exemple, tu pourrais, si tu es quelqu'un qui travaille dans le référencement... Avoir deux tableaux, un qui t'est dédié avec ton propre contenu, imaginons, et puis l'autre où tu vas faire un mixte. Ou alors tu seras plus sur des tutos, enfin je sais pas, là, ça me vient, mais...
Ok, d'accord, je comprends. En parlant de mots-clés, comment on fait pour savoir quels mots-clés on va attaquer ? Comment on peut avoir des données sur les volumes de recherche, ce genre de choses ?
Oui. Très très bonne question. Donc, en fait, déjà, il ne faut pas essayer de réinventer la roue. C'est-à-dire que sur votre site internet, sur quels mots-clés vous souhaitez vous positionner, sur lesquels vous travaillez actuellement. Et de là, à partir de cette liste, on va regarder s'ils sont utilisés sur Pinterest. Aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas d'outils pour connaître exactement le nombre de requêtes. Donc, on ne peut pas savoir aujourd'hui, SEO c'est taper tant de fois et SEO référencement naturel c'est taper tant de fois. Aujourd'hui, il existe un outil qui s'appelle Trends que Pinterest a mis en ligne mais qui est uniquement disponible pour le marché nord-américain. Donc, j'ai vraiment très hâte qu'il arrive pour en savoir un peu plus. Il a paru il y a quelques mois maintenant, donc j'espère le voir très prochainement.
Comment tu fais pour savoir si, par exemple, tu vends du linge de maison ? Comment tu fais pour savoir si rideau bleu est recherché ou pas, ou si rideau rouge l'est et pas rideau bleu, tu vois, tu fais comment ?
Eh bien, je vais taper rideau bleu et je vais regarder qu'est-ce que Pinterest me propose dans la barre de recherche. Je vais regarder est-ce que c'est rideau bleu dentelle ou rideau bleu avec des motifs dessus, ou alors plutôt un nom de tissu. Je sais pas, il faut explorer.
D'accord, donc quand tu fais la recherche, t'as des propositions de Pinterest, et ça veut dire que c'est des trucs qui sont recherchés.
Exactement.
C'est ça ?
Tu vois les propositions que Pinterest te propose, et ensuite, une fois que tu cliques sur Entrer, Rechercher, tu vas avoir des sous-catégories. Donc, par exemple, pour l'exemple rideau bleu,
j'imagine. Oui, qui vont apparaître.
Exactement.
Okay. C'est des petits blocs de couleurs qui apparaissent en dessous.
Exactement. On va avoir rideau bleu pour un salon, rideau bleu pour la chambre, ou rideau bleu ciel. On peut avoir des noms de couleurs. Donc, de là, tu peux voir aussi. Comment tu peux créer ta stratégie sur Pinterest, comment tu vas créer tes tableaux et quel contenu aussi intéresse, quelles sont les tendances de l'audience en fait.
Ok, mais alors du coup, admettons, tu veux apparaître sur rideau bleu ciel, on va dire. Après, une fois que tu as défini ta stratégie, des mots-clés, parce que tu as vu que c'était recherché ou pas, et que tu as les différentes terminaisons de tes requêtes, donc rideau bleu ciel en dentelle, tout ça, comment tu fais concrètement pour que ton pin apparaisse en résultat de recherche ? Je suppose que ce qui devait fonctionner au début, ça devait être du keyword stuffing, c'est-à-dire que tu en foutais plein de mots-clés dans le texte et ça fonctionnait. Ça fait longtemps que Pinterest existe, donc du coup, je suppose que ça ne marche plus vraiment. Donc, comment on fait pour apparaître sur une requête? Est-ce qu'il faut que notre pin, rideau bleu ciel et antenne, appartienne à un tableau balèze qui parle que de rideau bleu? Ou est-ce qu'il peut s'en sortir tout seul sur une autre thématique, genre les beaux rideaux pour les chambres à coucher ou... Comment on fait pour apparaître dans les premiers résultats, du coup?
Oui, enfin, moi, je testerai, du coup, mais j'ai envie de me créer un tableau rideau bleu, là, mais... non, bah du coup, très bonne question. En fait, ce que je ferai déjà, c'est que la première fois que je vais créer mon épingle sur Pinterest, qui traite rideau bleu, je vais l'épingler au tableau le plus pertinent de tout mon profil. Et si j'ai un tableau qui est rideau bleu, je pense que oui, je vais l'épingler sur rideau bleu. À savoir que dans la description de mon tableau, je vais y intégrer des mots-clés. C'est-à-dire que je vais dire, voici une belle sélection de rideaux bleus, des rideaux bleus aussi en dentelle pour mon salon, ou encore des rideaux pour ma petite salle de bain. Voilà, donc c'est l'emplacement des mots-clés se trouve sur plusieurs endroits sur Pinterest. Donc on a sur le titre des épingles, on a sur la pin description. C'est là aussi que tu peux jouer sur le titre du tableau et la description du tableau, par exemple.
Ok, donc en gros... Je vais récapituler. Tu veux apparaître sur des requêtes de rideaux bleus ou de rideaux... voilà, tu as un rideau bleu qui t'intéresse. Tu fais un tableau qui s'appelle rideau bleu. Tu fais une description où il y a rideau bleu qui apparaît dedans. Description du tableau. Et dans le tableau, tu vas mettre rideau bleu ciel, rideau bleu en dentelle, rideau nanana. Et tu vas refaire la même stratégie au niveau pin. Ce groupe de pin qui parlent du même sujet, qui vont pousser l'ensemble de tes pin et de ton tableau, quoi, c'est ça?
Exactement. Après, bien sûr, je mettrai mes mots-clés de façon naturelle. Là, j'ai dit une petite phrase, mais voilà, faut être un peu plus délicat dans l'écriture de ces pin descriptions aussi, des descriptions des tableaux également.
Et ok,
aussi,
d'accord.
Et aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que je serais capable d'alimenter un tableau uniquement qui traite de rideaux bleus? C'est ça aussi qu'il faut se demander avant toute création d'un tableau. Est-ce que je serais capable de l'alimenter régulièrement et au moins d'y avoir 50 épingles?
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses d'un tableau qui s'appellerait Rideau Bleu où tu n'as mis que 2 pins à toi et 48 de curation?
Je trouve ça dommage.
Ça marcherait quand même en termes de SEO pur. Si je veux juste apparaître dans un résultat de recherche, est-ce que ça fonctionnerait quand même?
Oui, parce que si tu es expert en Rideau Bleu et que tu montres que tu as beaucoup de contenu sur la thématique, oui. Ça fonctionnerait. Après, encore à tester. Pinterest aussi prend en compte. Bah, par exemple, moi, sur mon compte, c'est n'importe quoi si je commence à mettre des rideaux bleus. C'est pas du tout ma passion. Il y a aucun lien par rapport à mon compte. On est plutôt sur du marketing, sur des réseaux sociaux, etc. Donc, c'est ça aussi qui va prendre en compte.
Ok. Donc, finalement, le glissement sémantique est très important. Finalement, on peut voir ces tableaux comme des cocons sémantiques, qui est une technique de SEO, quoi. C'est assez intéressant.
C'est ça.
Alors du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que les tableaux partagés? Parce que je ne comprends rien. Dans mes essais, là, il y a des gens qui me proposent de participer à des tableaux. Alors j'essaie d'inviter des gens à participer, mais je ne sais même pas pourquoi je fais ça. C'est quoi les tableaux partagés? À quoi ça sert, quoi?
Oui, alors, les tableaux collaboratifs, faut revenir en fait à ses débuts. Parce qu'en fait, jusqu'en 2014, on n'avait pas de smart feed sur Pinterest.
Le smart feed,
c'est l'accueil en fait. C'est l'accueil de ton...
Ah, comme un mur de trucs qu'on propose, ok?
Exactement. Les pins qui étaient épinglés dans un tableau collaboratif, ils avaient de très fortes chances d'être vus par les abonnés du propriétaire du tableau.
Okay.
Donc avant, c'était un outil très puissant, les tableaux collaboratifs, pour agrandir sa communauté sur Pinterest, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est, bien sûr, ça permet d'augmenter ta portée, mais c'est beaucoup moins le cas qu'auparavant. Parce que clairement, Pinterest, ils ont dit, mais les tableaux, ils n'étaient pas du tout utilisés comme on le souhaitait. C'était plutôt quelque chose pour proposer des images, pour proposer des idées de produits. Imaginons autour d'un mariage, bah tiens, j'aime bien ce chemin de timbre, machin, mon mari va rajouter son costard, etc.
Okay.
Donc c'était plutôt un outil collaboratif, mais en fait, il est utilisé, entre guillemets, d'une mauvaise façon par les marketeurs, hein, de façon excessive.
En fait, ils s'en servent pour faire de la cross-promotion, quoi.
Exactement.
Mais alors du coup, je comprends pas le mécanisme, parce que si je suis invité à participer à un tableau, Donc si je mets un pin dans le tableau du propriétaire, je vais toucher potentiellement, comme le fonctionnement d'avant, les gens qui suivent cette personne-là. Mais moi, quel intérêt j'ai à accorder quelqu'un le droit de venir dans mon tableau, à part pour remplir un tableau que j'ai pas envie de remplir?
D'avoir un compte Pinterest qui reste actif.
Ah, d'accord, ok.
Quand on a un tout petit compte, c'est vrai que c'est difficile de construire un tableau collaboratif, parce que bah, l'intérêt pour les autres, c'est de toucher une audience qui n'est pas forcément la sienne, qui est un peu plus grande. Donc au départ, c'est vrai que c'est difficile de créer des tableaux collaboratifs. Par contre, si tu es invité à d'autres tableaux, c'est une bonne idée de le faire à tes débuts, pour commencer à toucher d'autres personnes.
Okay.
Et par rapport au tableau partagé, il faut prendre en compte plusieurs critères. C'est-à-dire, est-ce qu'il colle vraiment à ta niche? Est-ce que le nom du tableau est pertinent? Parce que ça, malheureusement, on ne peut pas le modifier à part suggérer au propriétaire de le changer. Ensuite, on a le contenu. Est-ce que c'est du beau contenu?
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas du spam? Est-ce qu'il n'y a pas que des liens d'affiliation?
C'est quoi du spam, excuse-moi, pour toi, sur Pinterest?
C'est épingler sans arrêt le même visuel. C'est épingler quelque chose qui n'est pas conforme aussi aux règles du tableau collaboratif. Souvent, dans la description du tableau,
ouais,
on va avoir
okay.
Ne pas épingler plus de 3 fois, respecter cette thématique, etc. Donc, si on va au-delà, c'est un peu considéré comme du spam, enfin, de mauvaise pratique, on va dire. Ensuite, il faut aussi avoir des épingles qui respectent les guidelines de Pinterest. Donc, tout ça, c'est ce qui va permettre de vérifier la pertinence d'un tableau et de voir aussi le nombre de contributeurs. Si on est au-delà de 100, de 500, on va perdre en pertinence par rapport à ton sujet principal. La qualité du contenu, tu ne peux pas vérifier derrière qu'est-ce qu'il y a, parce que tu vas être quand même... C'est un peu tes collaborateurs, finalement.
Okay.
C'est un peu ton équipe à toi, donc il faut avoir de la confiance, finalement, entre les personnes qui participent
Alors,
sur ce tableau.
En fait, au lieu d'accepter de participer à tous les tableaux qu'on nous propose et d'envoyer à tout le monde des invitations, en fait, ça rentre dans une stratégie, finalement, de cross-promotion. C'est-à-dire que je peux identifier des comptes qui ont des sujets connexes, des audiences connexes, et je vais les contacter de manière générale, genre, on a une audience connexe, si on faisait des choses ensemble, et là, pour le coup, de là... on arriverait à faire des tableaux partagés avec des gens en qui on a confiance et on est sûr que c'est la bonne audience, les bons contenus, quoi, c'est ça?
Exactement, ouais. Et pour trouver ces tableaux en question, tu as 2 outils. Tu as le Pin Groupie, qui est un site internet qui relève l'ensemble des tableaux collaboratifs. Et tu as aussi le...
Pin Groupie,
ouais.
Ok.
Il y a aussi l'outil de programmation que j'utilise pour mes épingles, c'est Tallowin, où tu peux voir aussi le taux d'engagement des épingles par tableau. Donc aussi bien tes propres tableaux que les tableaux collaboratifs.
Ok, très bien. Donc deuxième étape de la partie acquisition, c'est les clics. Une fois qu'on a eu le reach, la portée, comment avoir des clics sur nos pins? Je suppose d'ailleurs que ce taux de clic est un critère de l'algo. Alors ça, on en a déjà parlé. Quel est le meilleur titre, le meilleur texte? Quel format de l'image? Texte en surimp ou pas? Vidéo si possible, je suppose que ça joue beaucoup. Quelles sont tes bonnes pratiques pour faire d'une impression un clic?
Pinterest, ça reste quand même un moteur de recherche visuel, donc on va essayer d'attirer l'attention par le visuel. Donc ça, c'est l'une des premières choses auxquelles il faut travailler sur Pinterest, c'est avoir un visuel percutant qui change, qui interpelle, qui te donne envie de cliquer, d'aller plus loin. Ensuite, d'apporter de la valeur sur le visuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce visuel va m'apporter? Est-ce que, par exemple, si j'ai un produit, quel résultat, quelle solution il me permet d'obtenir à mes problèmes? Ou alors, un article de blog. Aujourd'hui, j'ai un podcast de marketing. Quelles questions je réponds pendant ce podcast et mettre en avant son contenu? Donc, tu me demandais si tu dois mettre du texte ou un titre sur son épingle. Oui, c'est nécessaire dans la mesure où... il faut rajouter du contexte en fait à ses épingles, contextualiser son épingle et donner envie d'en savoir un peu plus.
Okay.
Ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand tu crées tes épingles.
D'accord, donc en fait, un visuel d'une épingle, c'est plus cette fois comme un résultat de recherche Google que comme une image Instagram. Il faut faire un truc genre le guide ultime, les 18 façons de faire ceci. Voilà, il faut créer l'envie du clic, quoi. Et on n'est pas du tout dans... Instagram où finalement les visuels qui ont des textes en surimp en général ça plaît pas trop parce que c'est plutôt l'esprit de l'avoir la belle photo esthétique, quoi. Donc on est plutôt là-dessus, quoi.
On retrouve aussi l'inspirationnel comme sur Instagram, mais je dirais que c'est propre au marché en question et à la maturité de l'utilisateur. Je peux te citer l'exemple du voyageur. Au départ, il sera sur l'inspirationnel, à fouiller, il va utiliser des mots-clés pour trouver une destination, il va épingler des photos qui lui plaisent. Et ensuite, une fois qu'il a déterminé sa destination, il va rechercher des solutions pour s'héberger, trouver des bonnes adresses, etc. Et c'est là qu'interviennent les épingles avec du texte.
Ok. Est-ce qu'il faut faire varier le texte que tu mets sur ton visuel? Est-ce qu'il faut que ce soit à peu près la même chose que le titre de ton pin? Ou est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là-dessus?
Oui, il y a...
Faut que ce soit complémentaire?
Oui, tout à l'heure tu parlais de cocon sémantique d'un point de vue SEO. En fait, c'est vraiment tout un système, un écosystème que tu vas créer autour de ton épingle.
Ouais.
Donc tu vas avoir le texte, le titre de ton épingle qui est en dessous du visuel, le texte sur l'épingle, donc vraiment sur le visuel. Ensuite, tu vas avoir l'URL du contenu en question. Donc tout ça, Pinterest, il en prend en compte. Plus le nom de ton tableau, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ça, Pinterest, il en prend en compte. Il se dit, OK, là, tu parles de podcast, de marketing, de ça, de ci, de ça. Et ça, oui, ça permet de créer une sorte d'écosystème pour être mieux référencé sur Pinterest.
D'accord, OK. Et au niveau du visuel, il faut que ce soit de format vertical, si j'ai bien compris. Et les vidéos, est-ce que ça a un taux de clic bien plus important?
Alors oui, format vertical, 2 tiers, 1000 pixels de largeur et 1500 de longueur. Et ensuite, on peut aller un peu plus loin jusqu'à 2100, parce qu'en fait, Pinterest, il va avoir tendance à tronquer les longues épingles,
ouais.
si par exemple, cette épingle n'a pas eu beaucoup d'interactions sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il considère que s'il n'a pas eu beaucoup d'interactions, ce pin en question... je vais peut-être pas le distribuer à tout le monde et je vais peut-être pas le distribuer en intégralité. Donc il va là.
Ah bon.
Ouais, donc pour la plus grande épingle, par exemple, si on part de 1000 pixels de largeur, on va être sur 2100 de longueur.
Ouais.
Bah, après, bien sûr, c'est comment donner l'envie aux personnes d'aller plus loin, d'aller sur son site internet. Donc on est plutôt sur des vidéos courtes, entre 10-15 secondes. Après, le taux de clic, je pourrais pas te donner un chiffre exactement parce que j'en ai pas là.
Mais c'est efficace comme truc, les vidéos ?
C'est efficace. Après, je dirais que pour la création de vidéos, il faut donner envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que parfois, je vois des recettes. Et on donne toute la recette. Donc après, ça dépend de l'objectif.
Il faut surtout pas que les gens aient tout et restent sur Pinterest, que le but étant de rediriger. Okay.
Exactement. Là, on est vraiment dans l'objectif rediriger. Mais si vraiment tu te dis cette épingle-là, mon objectif c'est qu'elle soit épinglée le plus possible ou qu'elle ait un taux de rétention supérieur à la moyenne, etc., et tu vas mettre toute la recette par exemple. Mais il faut, au moins tu en es conscient et tu sais vers quel objectif tu vas.
Ok. Alors je te propose une très rapide étude de cas sur mon propre compte. Alors j'ai créé un compte Pinterest avant l'interview pour pouvoir tester. Alors, je ne vous invite pas à aller le suivre parce que je ne vais sûrement pas m'en occuper, mais c'est pinterest.fr/YannLeonardi. Alors, j'ai testé quelques tableaux, testé quelques trucs, et évidemment, j'ai eu très peu d'impressions et zéro clic. Voilà. Alors, d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est normal que j'ai eu très peu d'impressions parce que mes tableaux, ils ont 3 pins, il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas de régularité, de fréquence, il n'y a rien de tout ce qu'il faut faire. La seule chose que j'avais, c'était la fraîcheur, du coup.
C'est ça.
Par contre, un taux de clic à zéro, là pour le coup, j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait de mal. Donc est-ce que tu peux me faire un petit audit rapidement en regardant mes pins, à me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour augmenter mon taux de clic?
Ça marche. Déjà, quand je vois ton compte, je vois que tu as un compte vérifié, donc ça c'est plutôt une bonne chose. en plus, tu me disais, donc, comme ce que tu viens de souligner, c'est que tu viens tout juste d'ouvrir ton compte et la plupart du temps, quand la personne ouvre son compte, c'est qu'elle va épingler tout d'un coup. Pour être tranquille, alors que comme ce que je viens de souligner, c'est vraiment pas forcément la bonne technique, pour obtenir un meilleur taux de clic aussi, on va garder un compte actif, on va optimiser les tableaux. Là, je vois que pour l'instant, tes tableaux, ils n'ont pas de description, ils n'ont pas vraiment un titre qui correspond au contenu que tu as mis.
Ouais.
Donc on va continuer à enrichir ces tableaux, à aussi enrichir ton compte, hein, parce que là, deux tableaux, c'est vrai que ça paraît un petit peu faible, on va dire. C'est vrai que tu as souligné plusieurs faits. On a aussi le format qui est... Je ne suis pas sûre que tu respectes exactement les bons formats à chaque fois là, au niveau de tes épingles.
Non, pas tout à fait. J'ai resté vertical, mais je n'ai pas du tout fait attention au format exact. Ouais.
C'est vrai qu'il a intégré un petit call to action avec un faux bouton en fait, sur l'image en disant « en savoir plus », ou lire un peu plus, ou découvrir les trois aspects de telle chose, inciter un peu plus au clic. Ensuite, à savoir que la durée d'une épingle, c'est pas un jour, ou c'est une durée qui est beaucoup plus longue. On parle de plutôt de 3 mois de durée de vie d'une épingle sur Pinterest. Donc laisse-lui encore sa chance, prends le temps d'enrichir ton compte, et là tu verras s'il y a du taux de clic. C'est vraiment le début d'un compte, c'est comme si on ouvrait un compte Instagram. Si tu ouvres un compte Instagram aujourd'hui, bah, y a personne qui va voir ton visuel. Enfin...
D'accord, donc en gros, tu me dis qu'ils sont pas si nuls mes visuels, mais c'est juste que j'ai pas assez de volume pour voir quoi que ce soit. Quoi.
C'est ça. Après, je donnerai un peu plus de contexte avec tes visuels. Par exemple, là, je vois marketing de PNL. À savoir que Pinterest comprend aussi les images. C'est-à-dire que là, il voit deux jeunes hommes sur une plage avec le soleil, etc. Il faut bien donner du contexte. Donc là, tu as écrit marketing, tu as écrit PNL. Peut-être que là, pour l'instant, Pinterest, il se dit, OK, de quoi il parle ce visuel? Parce que tu as du marketing, tu as un fond avec de la plage. Est-ce que c'est du voyage? Pinterest, il est en train de se dire, OK, c'est quelle catégorie? Est-ce qu'on fait sur du... On est sur du marketing? On est sur du tourisme? On est sur du rap? On ne sait pas encore. Donc, il y a aussi ça qui rentre en...
Et la description que j'ai mise, ça suffit pas?
Si, c'est un bon départ. Franchement, si, c'est carrément un bon départ. Après, moi, je vérifierai quels mots-clés sont tapés sur Pinterest. Est-ce que, OK, on peut taper stratégie marketing, mais tu pourrais peut-être davantage l'enrichir avec d'autres mots-clés hein, de façon naturelle. Et aussi, pourquoi pas y rajouter ton hashtag. Les hashtags aussi sont utilisés sur Pinterest.
Ah, les hashtags aussi, c'est utilisé ?
Oui.
D'accord.
Dans une moindre mesure, on utilise les hashtags parce qu'en fait, quand tu fais une recherche avec un hashtag sur Pinterest, on va voir les visuels qui ressortent par ordre chronologique. Donc, par exemple, hashtag marketing digital. Aujourd'hui, peut-être que tu vas être dans les premiers résultats, mais demain, tu seras peut-être bien loin. Donc, on est plutôt sur 3, 4 maximum hashtags par visuel. Faut pas être spammy non plus. On va généralement créer son hashtag de marque et ensuite les deux hashtags qui collent le plus à ton contenu.
Ok, très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ce petit audit. Alors, j'aimerais parler de la pub sur Pinterest. C'est un truc que je n'ai pas pu tester du tout. Comment ça fonctionne, cette régie pub Pinterest? Les types de campagnes possibles? Quel est ton retour d'expérience avec cette régie?
Alors, la publicité sur Pinterest est disponible depuis mi-avril 2019, donc près d'un an maintenant. Donc finalement, on peut dire que c'est assez récent par rapport à d'autres réseaux sociaux ou d'autres plateformes qu'on connaît. En tout cas, on retrouve beaucoup de similitudes à la régie publicitaire de Facebook, par exemple. Sachant que je suis loin d'être incollable hein, sur la pub Facebook. Mais on retrouve des fonctionnalités similaires, c'est-à-dire la campagne de notoriété, la campagne de trafic et la campagne de conversion. Ouais. Donc tout ça, c'est vraiment... Enfin, je retrouve les mêmes fonctionnalités sur Facebook que Pinterest. Ensuite, on va avoir les choix des audiences. Au niveau des ciblages, on va avoir les audiences par rapport à la fréquentation de son site, au centre d'intérêt.
Ah, ça veut dire qu'on peut avoir des informations de son site comme le pixel Facebook?
Exactement.
Donc il y a un pixel Pinterest?
Oui, exactement. Tu dois installer le pixel tag dès maintenant. D'ailleurs, je t'encourage à installer le Pinterest tag.
Ouais, pour qu'il ait des infos.
Ouais.
Pour que les infos elles, s'accumulent.
Exactement.
Ah, ok, super. Est-ce qu'il y a des outils pour aider à développer son compte Pinterest? Alors, moi, je pense très, très rapidement, et c'est la première chose que j'ai fait, c'est les outils d'automatisation. Et le problème, c'est que comme je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait, j'ai appliqué des méthodes de bot qui fonctionnaient avant sur Instagram, sur Pinterest. Ouais, donc, du coup, le mass follow. Ce genre de truc, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, qu'est-ce que tu penses des outils d'automatisation? Est-ce que tu es absolument contre de toute façon parce qu'il y a trop de risques et que c'est pas qualitatif? Ou est-ce que tu es plutôt pour? Et puis si oui, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire grossir son compte quoi?
Concernant les bots et les optimisations, c'est vrai que c'est risqué, hein, comme sur toute autre plateforme. Surtout que Pinterest, ces 3-4 derniers mois, il y a eu des vagues impressionnantes de suspension de compte.
Okay.
Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ce point, prendre en compte que Pinterest ne tolère que ses partenaires officiels sur la plateforme. Donc, moi, par exemple, j'utilise Tailwind pour automatiser la promulgation de mes épingles.
Ouais, ce qui est plutôt... c'est pas vraiment de l'automatisation, quoi. C'est plus pour planifier, quoi.
C'est ça. Oui, c'est plus pour de la planification. Ensuite... ce que je disais un petit peu aussi au début, c'est que pour l'instant, Pinterest n'a pas suscité tout l'intérêt des éditeurs de logiciels, de ce genre d'automatisation. Donc, y a très peu d'outils. Donc pour l'instant, on est assez limité.
Moi, à un moment, j'ai utilisé Jarvi. Jarvi, qui est un truc qui marche, enfin qui marche plus ou moins bien, mais qui est censé marcher sur toutes les plateformes sociales. Donc il y a un truc Pinterest et il y a les trucs de normaux qui sont mass follow. Tu vois, aller suivre quelqu'un en espérant qu'il va venir voir son compte. Est-ce que ça fonctionne sur Pinterest, même si tu le fais manuellement? Est-ce que ça fonctionne? Si quelqu'un te suit, est-ce que tu reçois une notif ou pas?
Tu reçois une mini notif, mais il faut vraiment revenir au départ. C'est-à-dire que Pinterest, c'est comme un moteur de recherche. Tu n'es pas là pour te dire « Ah ouais, c'est génial, cette personne me suit » ou « Je vais suivre à tout prix cette personne ». Tu es plutôt dans l'optique de rechercher une solution en tapant des mots-clés. Donc, à moins que tu sois ultra fan d'une personne, d'un influenceur, d'une marque, et vraiment, et encore, pour être amené à suivre quelqu'un. Donc la démarche, ça serait plutôt de travailler son référencement, d'épingler plus régulièrement que d'essayer de suivre quelqu'un en espérant que la personne te suive.
D'accord, mais du coup, le smart feed, c'est pas un usage, c'est pas l'usage principal, c'est ça que tu es en train de dire?
Le smart feed, c'est un ensemble de résultats liés à tes centres d'intérêt, liés à tes épingles, pas à tes abonnements.
Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu suis quelqu'un que du coup tu vas avoir accès à ces publications, c'est ça?
Si tu as tu peux avoir accès à ces publications, mais ça sera via l'accès abonnement, qui est une tab, enfin qui est pas quelque chose de, une fonctionnalité qui est très très utilisée sur Pinterest. Sur Pinterest, tu vas être sur l'accueil et ensuite tu vas scroller sur l'accueil.
Ok.
Tu vas en effet avoir du contenu lié à tes centres d'intérêt, donc il peut y avoir potentiellement les personnes que tu suis. Mais tu peux avoir d'autres thématiques qui sont liées à ça. Par exemple, aujourd'hui, si je cherche des recettes de cookies, bah, peut-être qu'il va me proposer des recettes de dessert, des recettes pour le goûter, des recettes de gourmandise. Mais pas forcément du blogueur que je suis actuellement sur Pinterest.
Ok, très bien, je comprends. Est-ce qu'il y a des différences majeures d'utilisation de Pinterest entre différents business je pense notamment, je ne sais pas, entre un e-commerce et... et un blog de cuisine. Enfin, est-ce qu'on doit utiliser Pinterest de différentes façons en fonction de son type de business?
Oui, en effet. Par exemple, les infopreneurs, ils seront plus sur la plateforme pour apporter de la valeur à son audience. Et, on va essayer de rechercher des leads derrière. On va les renvoyer vers des livres blancs, des freebies, sur des articles, sur des podcasts. En fait, ça dépend aussi de la photogénie de ton business. Si tu as beaucoup de visuels à ta disposition, par exemple, comme l'univers de la décoration, admettons, généralement, ils ont énormément de visuels à leur disposition. Donc, ils auront une stratégie d'épinglage qui sera différente d'un infopreneur, par exemple, qui n'aura pas, peut-être, à sa disposition beaucoup d'images qui représentent ce qu'il veut dire. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte sur l'utilisation de Pinterest.
Ça marche. Alors, je te propose de passer à l'étape activation. Ce que tu viens de me dire est assez intéressant parce que l'étape d'activation dans toute activité, c'est le moment où l'utilisateur ou le client comprend la valeur ajoutée de ton activité. Et moi, je l'ai identifié comme ça, c'est-à-dire que je tombe sur un pin à toi en faisant une recherche. Je me dis, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir ton profil. Si ton profil est bien fait, tu vois, avec des tableaux, des machins, des trucs, je me dis, ah, vraiment, il y a plein de choses à savoir sur elle, je vais la suivre, quoi. L'action de cliquer sur le bouton suivre, c'est comme ça que j'ai identifié l'étape activation. C'est le moment où tu dis, bah, je veux pouvoir la suivre et je veux pouvoir voir du contenu de cette personne. Je suis en train de remettre en question un petit peu cette étape-là parce que tu me dis que finalement, c'est pas parce que tu as suivi un profil que tu vas pouvoir forcément avoir son contenu qui va arriver vers toi. Comment tu peux quantifier le fait que tes prochains pins vont apparaître dans leur smart feed? Parce que si c'est des thématiques qui les intéressent, ça devrait apparaître quand même. Le fait qu'ils te suivent, ça devrait apparaître un peu plus que s'ils ne te suivent pas du tout, non?
Exactement, ouais. Mais c'est ce que tu soulèves, c'est quand sur Pinterest, ce n'est pas ton nombre d'abonnés est égal ta portée. Ta portée peut être supérieure à ton nombre d'abonnés, mais très largement supérieure. Si je prends un exemple, j'ai, admettons, 300 abonnés. Aujourd'hui, la portée de mon épingle est peut-être de 1800 ou 2500. Donc, c'est vraiment si tu réponds à un besoin, à un moment donné, ton épingle sera plus visible.
OK.
S'il y a eu des premières interactions, ce dont j'ai parlé, etc., si elle a plus cette épingle à mon petit groupe d'abonnés, eh bien, il va la distribuer davantage.
D'accord. Mais alors, du coup, si je te suis, toi, j'ai quand même plus de chances de voir une épingle à toi dans mon smart feed que si je ne te suis pas du tout.
Oui, tu as plus de chance, mais imaginons demain tu t'intéresses plus du tout à Pinterest et que tu t'intéresses uniquement à Instagram, bah tu risques pas de rencontrer.
De te revoir.
Exactement, ouais.
Ok, d'accord. Donc si tu restes dans la même thématique, enfin, du coup, d'où l'importance en fait d'essayer de se faire suivre que par des gens qui sont très intéressés par le contenu. Et alors, du coup, mon automatisation avec Jarvie qui fait du mass follow, ça n'a aucun intérêt.
Pas vraiment.
Ok, c'est super intéressant. Parce que du coup, je vois bien que si il t'a suivi, mais que tu proposes du contenu qui n'était pas vraiment dans son scope, de toute façon, tu n'apparaîtras pas dans le Smart Feed. Tu n'apparaîtras que dans l'onglet abonnement qui n'est pas consulté.
C'est ça. Et en plus de ça, du coup, Pinterest, il va se dire, bon, bah, c'est bien, il épingle plein de choses. Il y a des gens qui suivent ce qu'il fait. Mais derrière, il n'y a pas d'interaction. Il n'enregistre jamais ses épingles. Donc, il va peut-être même dévaloriser ton compte dans le Smart Feed, dans ses résultats de recherche, parce que tes épingles n'ont pas marché auprès de ses abonnés.
C'est vrai, je comprends. Pour que quelqu'un que tu as ciblé, qui est vraiment dans ton audience cible, clique sur « Suivre ton compte », je suppose qu'il faut que ton compte il ait une bonne tête. Comment tu préconises d'optimiser vraiment un profil Pinterest ?
C'est pas ce que tout le monde fait sur Pinterest, c'est d'aller voir tout de suite immédiatement le profil, mais il faut quand même que ça ressemble à quelque chose, il faut que ça soit avec un branding, parce que sinon, enfin, c'est pas cohérent, etc. Donc on va modifier la bio, on va faire en sorte que ça corresponde vraiment à son activité, à montrer qui on est et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. On va avoir un site vérifié, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça prouve que c'est une vraie personne, c'est bien le compte officiel de telle personne. Ensuite, les couvertures des tableaux. Tu disais tout à l'heure que ça peut faire bien, c'est vrai que ça peut rassurer la personne et dire bon bah voilà, je vais avoir du contenu. En plus, il y a quand même pas mal d'épingles dans ces tableaux, c'est aussi quelque chose finalement qu'on va regarder. La personnalisation de sa cover.
Ouais.
C'est la petite bande qui se trouve en haut du profil.
J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des vidéos dans cette cover.
Oui, oui. Oui, j'en fais partie. Bah...
Oui, c'était toi ce genre qui avait une vidéo du coup. Parce que j'ai vu des gens, mais en fait c'est ton profil qui a une vidéo.
Oui, oui.
Donc
oui.
Si tu l'as fait, c'est pas pour rien du coup, je suppose.
Oui, parce que je suis sur une cible qui est un peu plus B2B, donc je pense que cette personne va aller voir ce que je propose globalement. C'est un peu ma carte d'identité, c'est un peu mon profil LinkedIn version Pinterest en quelque sorte. Donc j'ai mis en avant cette vidéo. Mais après, c'est à toi, tu peux choisir aussi l'option avec les petites épingles si t'as rien en attendant, mais je te conseille vivement de la personnaliser, ouais. Montrer qu'est-ce que tu peux apporter très rapidement.
Ok, est-ce qu'on peut envisager d'envoyer des messages privés pour quelqu'un qui te suit ? Est-ce que c'est une pratique, ça ? Pour dire bah, bienvenue, et puis voilà, se présenter, est-ce que c'est un truc qu'il faut faire ?
Alors, Pinterest, on l'utilise finalement comme un outil pour soi, comme quelque chose je pense pas que t'aies dit tiens, je me suis mis sur Pinterest, viens voir, viens me rejoindre, on va faire quelque chose. En fait, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que c'est un peu sa liste du Père Noël qu'on va garder secrètement jusqu'à ce qu'on l'envoie au Père Noël. Donc tout ça pour dire que c'est un outil de planification et qui reste assez personnel. Et je pense que l'envoi du DM n'est pas encore une pratique très courante sur Pinterest parce que ça reste quelque chose d'assez personnel.
Ah, c'est un peu intrusif, tu veux dire, en fait. C'est pris comme quelque chose d'intrusif ?
Oui. Moi, je ne recommande pas forcément cette pratique-là, parce que je pense que c'est quelque chose, pour l'instant, vu comme intrusif. Par contre, pour essayer de dialoguer avec ma communauté, avec les personnes qui ont suivi mes épingles, qui ont commenté mes épingles, par exemple, je pense notamment aux recettes de cuisine, au do-it-yourself, au bricolage, etc. Il y a des personnes qui vont mettre en avant ces réalisations en commentaire. C'est-à-dire qu'ils vont mettre « Tiens, regarde, c'était génial ta recette, voici ma photo, je te remercie pour tes tips, etc. » Et moi, je vais commenter en retour en disant « Ah bah, je te remercie d'avoir suivi ma recette, etc. »
D'accord.
Je vais essayer d'engager peut-être un petit peu le dialogue via cette option-là, par exemple, au lieu du DM.
D'accord. Et du coup, on n'a pas parlé des commentaires dans l'engagement. Mais est-ce que Pinterest considère que le commentaire est plus puissant et plus important dans l'algo que les autres preuves d'engagement ou pas spécialement ?
Oui, oui, oui. C'est un facteur puissant en fait sur l'engagement d'une épingle. Malheureusement, c'est pas une pratique encore très courante.
Oui, ça se fait pas trop.
Ouais, c'est pas encore très très courant. Ce que je te disais, c'est sur des secteurs bien précis. Toutes les choses qu'on arrive à expérimenter, qu'on arrive à faire, qu'on suit un tuto, on suit quelque chose, Ça, on va le mettre, on va montrer sa réalisation finale, mais par contre, voilà, sur le marketing, peut-être pas. On va peut-être pas dire « Ah ouais, c'était génial, ton article », ça, on va plutôt l'avoir sur son site internet.
Ben oui, mais en même temps, ça vient de ton call to action, parce que tu as fait une épingle où tu appelles les gens à aller sortir de Pinterest pour aller sur ton site. Mm-hmm. Donc, tu peux pas jouer cette carte-là et jouer aussi la carte en disant « Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ». Ça colle pas, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi.
Oui, donc ça, c'est okay. Encore une fois, c'est une question de stratégie. Tout à l'heure, je te disais avec la vidéo… Quel est l'objectif ? Soit tu mets en avant toute la recette, hein, pour une recette, admettons, ou t'expliques toute la recette, ou soit tu en donnes qu'un petit bout, un petit teasing pour qu'il aille sur ton site. Donc c'est un parti pris qu'il faut prendre.
Et est-ce que tu peux avoir, dans ce cas-là, deux stratégies sur le même compte ? C'est-à-dire que tu peux jouer pour le SEO, et tu vas dire, voilà, j'ai une petite portion de mes contenus qui va servir qu'à la jouer façon Instagram. Ma vidéo sur la recette de cuisine, je vais tout mettre dans la vidéo et je vais essayer d'avoir de l'engagement, d'avoir des commentaires pour que ma vidéo soit poussée partout dans les smart feeds et avoir de la visibilité comme ça. Est-ce que ça peut être une idée d'avoir deux stratégies sur le même compte ?
Oui, ça peut être une stratégie. Je dirais même pour un contenu, je peux dire bah tiens, je vais créer une recette où je vais tout dire et puis une autre avec un autre visuel. Donc tu peux partir finalement
sur le même contenu, tu peux faire les deux avec deux épingles différentes.
Ouais, ah, super. C'est ça.
Ok, mm-hmm. Très bien. Troisième étape du framework, la rétention. Et là, je vais poser la question qui me hante depuis tout à l'heure par rapport aux réponses que tu me donnes. Quand tu as activé quelqu'un, donc qu'il a admettons qu'il a découvert ton profil et qu'il s'est dit « ça, c'est intéressant, je veux la suivre, admettons ». Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux essayer de le pousser justement vers le bouton « suivre » ou est-ce que tu penses que sur le profil, il faut plutôt essayer de le ressortir le plus vite possible vers un truc qui va récupérer son email ? Est-ce que la clé de la rétention Pinterest serait plus efficace avec le jeu Pinterest de suivre et rester sur un truc pertinent pour apparaître dans son smart feed, ou est-ce que finalement, ce serait pas mieux de, dès la biographie, essayer de leur dire, voilà, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais je vous file le guide gratuit, les 40 recettes de cuisine au chocolat, et c'est un lien vers un truc d'opt-in où tu vas récupérer l'email, et là, tu es sûr que tu peux avoir une rétention un peu plus cadrée.
Moi, je suis plutôt pour la deuxième option, c'est-à-dire essayer de capter les personnes sur son site,
ouais.
Les attirer via un lead magnet. Ouais, je suis complètement sur la... En tout cas, pour la plupart des comptes sur lesquels j'ai pu travailler, je suis plutôt sur cette deuxième stratégie. Après, si tu es une influenceuse Pinterest ou Instagram, tu vas peut-être envisager de faire grossir ton compte pour avoir plus d'impact auprès des marques avec lesquelles tu veux travailler, etc.
Ok,
ça dépend vraiment de tes objectifs.
Ça dépend des objectifs. Ok, tout c'est clair, ça marche. Mais c'est marrant parce que Pinterest est vraiment un truc hybride qui est à cheval entre plusieurs modèles et qui tu peux tendre plus vers un modèle ou plus vers un autre en fonction de tes objectifs. C'est super intéressant. Et du coup, c'est un peu plus compliqué quand même. Faut pas faire n'importe quoi comme ce que je pensais il y a encore pas si longtemps. Ok, donc la rétention, voilà, si tu es une influenceuse, ta rétention, c'est dans Pinterest. Si tu es un business, ta rétention, vaut mieux que tu la sortes sur un truc d'emailing, c'est plus efficace, quoi. Ok, je comprends. Quatrième étape du framework A, le referral, la recommandation. Donc, une des plus grosses pratiques de Pinterest, c'est le repin. On peut donc considérer que quand un utilisateur repin vos épingles, il vous fait donc de la recommandation.
Oui, c'est vrai. Par contre, c'est fait de façon finalement inconsciente, car le pin, il a été enregistré pour sa propre utilisation, pour voilà, parce que je sais que ce contenu, il va être utile pour moi, c'est un produit que je veux. Enfin, donc on va pas essayer.
Ah, c'est ça.
On sera pas comme sur Instagram. Hey, regarde, j'ai vu le nouveau sac de telle personne. Ça t'intéresse, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses ? Là, c'est vraiment quelque chose qu'on va garder pour soi. Donc on va le repiner dans son tableau.
Ok.
Pour le futur.
En fait, c'est comme une wishlist, quoi. C'est ça, tu disais par là tout à l'heure la liste du Père Noël. Moi, je le repine pour mettre dans mon petit stock, mais en vrai, ça envoie des indicateurs à Pinterest. Et d'ailleurs, on ne l'a pas vraiment évoqué tout à l'heure, mais si tu as plein de repines, ton épingle, elle remonte dans les résultats de recherche aussi, je suppose. C'est aussi un critère ?
Oui, c'est un critère de l'algorithme de Pinterest. Auparavant, d'ailleurs, il y avait des épingles tellement populaires qui restaient tout le temps en haut des résultats, en fait. Pinterest a dit, ok, là, je vais commencer à mettre un seuil, une limite, et après procéder à un roulement, finalement, de mes épingles. Heureusement qu'ils ont ils ont changé un petit peu l'algorithme pour faire en sorte de renouveler le contenu et aussi de proposer un contenu qui répond aux requêtes précédentes. Par exemple, si je reviens aux recettes, tout à l'heure j'évoquais les cookies et là je suis plutôt dans un gâteau, bah, peut-être qu'il va me proposer avec des pépites de chocolat, plus de gâteaux avec des pépites de chocolat parce que juste avant j'ai eu une idée de cookies avec des pépites de chocolat. Donc tout ça pour dire qu'on n'a jamais vraiment le même feed, le smart feed, on n'a jamais le même, chaque utilisateur a son propre smart feed. Chaque utilisateur a presque ses propres résultats de recherche quand il tape un mot-clé. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je tape tel mot-clé, toi, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc oui, le repin, ça fait partie de l'algorithme. Après, il faut arriver à encourager le repin. Il faut répondre aux tendances, il faut que ce soit utile, il faut que la personne comprenne exactement ce que tu veux dire sur ton épingle, il faut que ce soit... tout ça.
Donc du coup, le repin, c'est de la recommandation parce que ça va forcément toucher peut-être pas tous les followers, mais une partie des followers, des gens qui vont faire le repin. Mais c'est surtout que cette recommandation n'agit pas que en termes, on va dire, de viralité. Ça joue sur l'autre partie du jeu Pinterest qui est donc re-acquisition par le moteur de recherche. En fait, ça, c'est pas direct. C'est-à-dire que d'habitude, la recommandation, c'est très simple. La personne qui recommande va recommander à une personne qui va devenir utilisateur. Directement, ça repart dans l'acquisition, tu vois. Mm-mm. Sauf que là, en fait, cette recommandation va ramener un petit peu de gens, mais ça va aussi alimenter le moteur de recherche qui va ramener des gens. Donc en fait, le repin et la recommandation sur Pinterest, elle est encore plus puissante que sur un autre modèle, quoi.
Mm.
Ok, je comprends bien. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques en termes de recommandations qui peuvent être utilisées sur Pinterest du coup ?
Oui, donc tu peux encourager tes visiteurs, les visiteurs de ton site internet, à épingler tes propres épingles. Et donc là, tu vas plutôt mettre en œuvre un widget sur ton site pour dire « Ah bah attendez, je suis aussi sur Pinterest, regardez, si je prends l'exemple de mes recettes de cuisine, admettons, regardez, vous avez aimé les cookies, mais regardez sur ce tableau, j'ai encore plein de recettes de cookies qui sont encore différentes, donc là je vais les inciter à regarder sur Pinterest, à suivre mon tableau,
okay.
Avec des widgets, avec la proposition de l'épingle pour Save the Pin, la petite image rouge.
Donc ok, donc en fait, ce que tu me dis, c'est qu'avec les plugins que tu mets sur ton site, donc dans un premier temps, on a l'idée d'en faire un canal d'acquisition vers Pinterest, puisque ça va être essayer de faire découvrir les autres tableaux, aller découvrir le compte et tout. Mais finalement, à partir du moment où ils vont cliquer sur Repin, sur ton site, donc ils vont faire de la recommandation avant même d'arriver sur Pinterest.
Oui, tu as raison.
C'est
ça, exactement.
Ok, très bien. Bon, super, parfait. Alors du coup, DigiToucan, ta structure, vers quoi tu veux l'emmener ? Parce que j'ai vu sur ton site que tu étais en pré-lancement d'une formation pour Pinterest, qui finalement, j'ai vu personne faire ça pour le moment. Donc je suppose que tu vas te lancer un peu vers la formation.
Je veux donner l'opportunité aux marques françaises en fait, d'être présentes sur Pinterest, comme le serait n'importe quel grand groupe. On connaît tous aussi les difficultés de se faire connaître, de gagner en visibilité, d'agrandir son audience. Donc c'est aussi vers les indépendants que je me dirige, en leur proposant des solutions pour être plus présent en fait, sur la plateforme, sur Pinterest. Et bien sûr, de m'accompagner avec des personnes, d'avoir une équipe sur le long terme pour gérer plusieurs comptes et proposer plusieurs prestations dans ce sens.
D'accord, donc tu voudrais à terme être une agence Pinterest et finalement accompagner du petit acteur jusqu'au gros groupe en fait.
Oui, c'est l'idée, c'est l'objectif que j'ai envie de me donner.
Ouais. Ok, d'accord.
La formation, c'est ce que tu disais, c'est pour les personnes qui ont le temps aussi de travailler sur son compte Pinterest, donc ça serait plutôt de la formation en ligne et après sur des prestations... Ouais. Avec des marques qui n'ont pas forcément les ressources, qui veulent faire appel à quelqu'un qui est expert sur cet outil.
Ça marche. Alors, comment tu fais pour continuer à te former, du coup, sur Pinterest ? Est-ce que tu as des ressources, des blogs, des influenceurs que tu suis sur le Pinterest Game ?
Oui, alors déjà, je suis les ressources officielles de Pinterest.
Ouais.
On a d'abord le blog Medium des ingénieurs de Pinterest, donc je dirais pas que c'est la lecture la plus fun à lire parce que déjà c'est en anglais et en plus ça parle que d'algorithmes, donc il faut suivre un petit peu la conversation, mais c'est très intéressant justement pour comprendre le fonctionnement de ce moteur de recherche visuel et un peu social, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, je lis essentiellement des blogs anglophones. Je suis aussi le site de Pinterest, mais plutôt côté anglais. Donc Business Pinterest et la New Room de Pinterest, où on peut retrouver des études de cas d'entreprises qui ont utilisé Pinterest dans le cadre d'une, de visibilité organique et de campagne sponsorisée. Okay.
Donc les études de cas, ouais, c'est cool. Ouais.
Ensuite, je regarde beaucoup le contenu créé par Talwin. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'outil de programmation de mes épargnes. Il crée d'excellents contenus. Fiable et actualisé. Bon, du coup, c'est du contenu en anglais également. Et ensuite, je vais suivre d'autres personnes qui sont, on va dire mes compères, mais plutôt aux États-Unis. On a Kate Hale qui propose un contenu ultra qualitatif et un podcast qui parle uniquement de Pinterest. Donc, c'est un peu le paradis pour moi. C'est parfait. C'est génial. En plus, elle est très pédagogue. Donc, c'est vraiment intéressant. Elle a plus de 180 épisodes qui traitent du marketing Pinterest.
Okay.
Et ensuite, je vais suivre Jeff C., qui est aussi un expert en social media et spécialiste Pinterest. On a aussi Ivory Mix. Angie Gessler.
Je mettrai la liste, je mettrai ta liste dans la,
okay.
dans la description du podcast. Okay.
Ça marche.
Est-ce qu'il y a des livres, des films, des personnes ou autres qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Et là, pour le coup, pas forcément business, ça peut être vraiment n'importe quoi, du moment que ça a pu faire tilt sur un truc, te faire changer de point de vue, t'aider dans ta... dans ton parcours, tout ça m'intéresse. Quoi.
En ce moment, je relis les grands classiques du marketing, comme Influence et Manipulation de Cialdini.
Ouais.
Et quand tu parles de personnes qui ont de l'influence, un impact sur moi, j'avoue que je regarde plutôt les personnes qui m'entourent. Finalement, je n'ai jamais cherché très très loin. Je regarde plutôt mon cercle familial ou encore amical. J'aime bien analyser comment ils ont réussi à faire des choses alors qu'ils n'étaient pas forcément destinés à ça ou au contraire comment ils ont fait face à un échec ou enfin qu'est-ce qui s'est passé. J'aime beaucoup analyser de cette façon. Donc ça peut c'est vraiment
donc c'est pas ça, c'est pas des noms qui vont parler à beaucoup de monde du coup, c'est ça?
Non c'est ça.
Ok, très bien. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Cécilia, de m'avoir éclairé, de nous avoir éclairé, je suppose. C'était quelque chose qui, moi, personnellement, me posait problème depuis très longtemps. J'ai essayé de comprendre et il manquait les clés de compréhension. Donc, merci beaucoup et je pense que les auditeurs te remercieront également. Je te souhaite bonne continuation.
Bah, merci à toi, Yann. Merci pour l'invitation. J'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur Pinterest.
Et puis, à très bientôt, Cécilia.
À bientôt.
Salut.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service, ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt, ciao.